Marc-André Delbavie, je suis né le 10 février 1961 et je suis compositeur.
Sa musique émerveille par la chatoyance de son orchestration, son œuvre au lyrisme nostalgique, à la transparence diaphane, est jouée par les plus grands interprètes, de Christophe Eschenbach à Leif Overensnes. Enfant de l'école spectrale, célébrée par les plus grands orchestres du monde entier, entre son enseignement de l'orchestration au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et son domicile bordelais, nous avons rencontré, à Paris, le compositeur Marc-André Delbavie. Retour sur ses années d'apprentissage sur le milieu musical au moment où il y fait ses études, dans les années 1970.
Il y avait trois grands courants dans la musique à l'époque, dans la composition musicale. Il y avait la musique électronique qui était importante, l'électroacoustique d'ailleurs à l'époque, qui était mi-électronique, mi-électroacoustique, qui se faisait beaucoup à la radio d'ailleurs, à Radio France, et puis dans les studios en Allemagne. Il y avait le courant post-sériel avec Pierre Boulez, qui était donc toute la musique écrite, etc. Et puis, il y avait des indépendants, on pourrait dire. Il y avait Xenakis, il y avait Ligeti, il y avait tous ces gens-là qui étaient un petit peu en dehors. Donc voilà, effectivement, fin des années 70, on était face à des tendances modernistes qui s'opposaient très souvent, qui se parlaient peu et qui étaient orientés vers, disons, une utilisation de la musique comme quelque chose de militant, presque politique. Et c'est vrai que moi, j'étais fasciné par ce que j'entendais. Et en même temps, pour moi, ce qui m'intéressait dans la musique, c'était la découverte de nouvelles sonorités, de nouvelles... l'exploration de nouveaux langages, de nouvelles textures, c'était ça que j'aimais. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvé, moi, comme un musicien classique qui découvre la musique contemporaine, qui découvre des sonorités absolument inouïes, qui me fascinaient. Mais j'étais pas du tout dans la perspective d'un compositeur d'avant-garde, s'opposant au passé, etc. Enfin, toute la panoplie de l'artiste moderne.
Enfant de l'école spectrale, Marc-André Delbavie revient sur sa rencontre avec l'œuvre de Gérard Griset.
Je me souviens très bien de la première fois que j'ai entendu Partiel. J'étais au conservatoire, encore étudiant, avec plein d'amis qui ensuite sont devenus compositeurs. Et tout d'un coup, on écoute une musique qui visiblement nous stupéfie par l'aspect consonant. Et en même temps, cette consonance n'est ni tonale ni atonale. Voilà. Elle est post-atonale, en fait. Voilà. Et ça, c'est un choc.
Donc les murailles, les grisets étaient pour vous des exemples, alors qu'ils n'étaient pas véritablement représentés au conservatoire. À cette époque-là, c'était encore certainement Betsy Jolas, Claude Baliff, qui était encore professeur.
Tout à fait. Ils étaient représentés nulle part, en fait. Ils étaient autour d'un groupe de musique instrumentale qui s'appelait L'Itinéraire. L'idée de l'itinéraire, c'était d'assembler à la fois des instruments électroniques et des instruments acoustiques. Donc l'idée de créer un lien entre finalement le passé et le futur, hein, c'était une sorte de présent qui ne s'isole pas, mais de présent qui fait partie d'une chaîne. Donc déjà le geste était fort, il s'opposait à la fois à la musique électroacoustique pure ou acousmatique, et puis à la fois à la musique instrumentale des musiques post-sérielles. Donc il y avait quelque chose effectivement de totalement fascinant par cette voix nouvelle qui n'était représentée ni au conservatoire, ni à l'IRCAM à l'époque, ni à la radio. En fait, c'était un univers musical marginal.
Les premières œuvres de Marc-André d'Albavy, telles Diadème ou Seuil, laissent place à l'électronique. L'IRCAM est une étape importante dans l'œuvre de Marc-André d'Albavy.
Ça a été vraiment un contact fondamental avec l'électronique, avec la spatialisation, et puis avec des scientifiques avec lesquels je parlais, parce qu'à l'époque, il y avait deux choses qui étaient fascinantes à l'IRCAM. Il y avait évidemment la présence de Pierre Boulez, qui était un personnage hors du commun, mais en même temps, il y avait des scientifiques de tous les pays qui étaient vraiment passionnants, et il y avait des compositeurs qui venaient de partout. C'est à cette époque-là que j'ai rencontré tous mes amis actuels, que ce soit Magnus Lindberg, George Benjamin, tous ces gens venaient à l'IRCAM, travaillaient ensemble, et c'était absolument fantastique. Et effectivement, ce brassage d'idées, de tout ça, a formé ma réflexion sur mon écriture et tout ça. Ouais.
Et depuis, l'électronique, vous l'avez abandonné, mais il a certainement aussi changé votre vision de l'orchestre. Justement, vous parlez de spatialisation, mais aussi de couleurs, de textures, certainement que l'électronique.
Mais tout à fait. Par exemple, même si dans mon orchestration... Il y a beaucoup d'éléments techniques qui viennent de l'orchestration traditionnelle, qui viennent de mon apprentissage en fait. L'influence de l'électronique a été déterminante. Il y a beaucoup de moments dans mon orchestration où l'orchestre sonne presque comme de l'électronique, même si l'électronique n'est pas là. Elle est purement acoustique, si j'ose dire. Donc ça a été important. La spatialisation est venue de l'influence électronique, mais plus particulièrement de la discussion avec des scientifiques, et particulièrement avec un scientifique qui s'appelait Jean-Marie Adrien, qui est un physicien et qui m'a dit un jour, mais tu sais, le timbre n'existe pas sans sa diffusion dans l'espace. Et ça m'avait frappé. Et c'était une critique qu'il faisait à la musique spectrale. Il disait, tu vois, le timbre, c'est pas simplement des partiels, des transitoires d'attaque, etc. Mais c'est aussi la manière dont le timbre se propage dans l'espace. Et une trompette va avoir une directivité de son son va être projeté. Un violon va projeter son son par rayonnement. Et donc les harmoniques se baladent beaucoup dans l'acoustique par phénomène de réverbération, d'écho, de façon un peu chaotique. Et donc la façon dont un son se comporte dans l'espace produit son identité, sa couleur. Et ça a été une réflexion extrêmement importante pour moi. Quand il m'a dit ça, je me suis dit effectivement, si je veux continuer à explorer le timbre, il faut que j'aille jusqu'à sa diffusion dans l'espace. C'est de là qu'est venu tout ce travail que j'ai fait avec les orchestres.
École spectrale, l'IRCAM, Pierre Boulez, mais aussi Franco Donatoni. Compositeur prolixe, volubile et figure incontournable de la modernité, Marc-André Dalbavy évoque sa rencontre avec le compositeur italien.
Ce qui a été déterminant pour moi, c'est lorsqu'il m'a expliqué comment lui a procédé dans l'apprentissage de son style. C'est un compositeur de musique dodécaphonique, donc il a commencé à travailler pendant des années l'écriture dodécaphonique de telle manière qu'il puisse véritablement l'utiliser de façon de plus en plus naturelle. Et il est arrivé à une telle maîtrise de toutes les combinatoires dodécaphoniques, c'est-à-dire tous les renversements, les inversions, enfin tout ce qui est de la technique du système dodécaphonique, que lorsqu'il s'est senti prêt, il a abandonné tout le travail précompositionnel et il a commencé à écrire de la musique de dodécaphonique comme s'il improvisait. Et en fait, il voulait que ça devienne complètement intégré à son style, à lui-même, et que cet objet technique fasse partie de son langage. Et après, il a commencé à véritablement composer. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose d'absolument fou. D'abord, c'était une rigueur merveilleuse, cette espèce de volonté, de maîtrise d'un outil qui est si complexe que l'outil de dodécaphonique. Et pour moi, c'est toujours resté dans ma tête. Alors effectivement, il y a aussi la jubilation, le raffinement de sa musique, le caractère extrêmement vivant de son rythme, l'humour aussi, qu'il y a tellement d'humour dans sa musique. Il y a des fois où je souris et quelquefois plus. Alors effectivement, tout ça a été important. Et lorsque je suis parti de l'IRCAM, lorsque je suis ensuite parti de France pour vivre ailleurs et voyager, c'est vrai que j'avais décidé d'abandonner toutes les techniques d'écriture que j'avais élaborées avec l'ordinateur à l'IRCAM, c'est-à-dire toutes les techniques de compression, dilatation harmonique, de matrice, enfin des choses assez complexes, parce que je commençais à les maîtriser de plus en plus, même à savoir ce que le programme allait me sortir, tellement j'avais l'habitude de manier ça, et j'ai commencé à écrire à main levée. Et ça, ça vient vraiment de Donatoni. Et depuis les années mi-90, j'écris sans ordinateur. Donc c'est comme si la technologie était pour moi devenue obsolète d'une certaine manière. J'en avais plus besoin parce que tous les outils que j'avais développés grâce à les technologies, je les avais en moi. J'ai été passionné de littérature, en fait, dès l'âge assez jeune, dès l'adolescence. Et donc, je lisais beaucoup de romans, je lisais beaucoup de fiction, des choses comme ça. Si je prends le cas d'un auteur qui a été important pour moi, qui est Claude Simon, donc le nouveau roman des années 60-70, un roman comme Le Sang de Chose, une fiction comme Le Sang de Chose, a été assez importante pour moi parce que c'est un livre où il y a la superposition de plusieurs histoires simultanées et on passe d'une histoire à l'autre avec des raccords. Et ces raccords peuvent être un élément du décor d'une pièce qu'on retrouve dans un autre endroit et cet élément tout d'un coup qui est commun nous fait réaliser qu'on est aussi dans un autre, à une autre époque même. Il superpose des histoires qui se passent à des époques différentes et tout ça. Alors toute cette polyphonie d'histoires dans ma pièce Seuil, par exemple, a été essentielle. Et toute la technique de polyphonie de processus que j'ai développée depuis lors jusqu'à encore aujourd'hui vient en grande partie à la fois de Claude Simon et à la fois de Bulgakov avec Le Maître et Marguerite. Donc voilà, ça, c'est deux influences qui sont très claires dans ma musique, de l'influence littéraire.
Et le côté pictural aussi, peut-être du point de vue de la forme aussi, souvent des formes insaisissables. J'ai l'impression que vous ne voulez pas vous enfermer dans un processus qui est peut-être parfois un processus de répétition. Ou...
Effectivement, chez moi, la pièce Seuil est presque un manifeste, dans la mesure où le seuil, c'est le moment où le processus bascule en autre chose. Donc effectivement, l'aspect insaisissable, l'aspect surprise, les choses qui m'émerveillent, parce que moi, ce qui m'importe, c'est d'être émerveillé. Je ne pourrais pas imaginer de faire de la musique sans être émerveillé, ému, tout ce qui n'a pas d'explication par l'idée d'un processus intangible. Je ne peux pas imaginer à la fois de composer de la musique du passé, c'est-à-dire de me dire, bon, voilà, cette nostalgie est tellement forte que je vais m'emprisonner dans un style suranné, un style du 19e siècle, ou du début 20e siècle, ou du 17e siècle. Ça, c'est une chose que je refuse, évidemment. Mais cette nostalgie est une émotion qui me porte, mais qui me porte vers quelque chose qui développe ma créativité. Donc ça, effectivement, c'est le lien avec, effectivement, avec certaines voix. La voix de Philippe Jarowski, évidemment, a été quelque chose d'important pour moi, parce que c'est une voix que j'attendais, puisque les sonnets de Louise Labbé que j'ai fait pour lui, c'est des sonnets que j'avais dans ma poche depuis très longtemps, et j'attendais une voix. C'est quand je l'ai entendu que je me suis dit, voilà, ces sonnets-là, c'est pour lui. Donc effectivement, il y a une écoute de la musique du passé chez moi permanente, puisque j'ai découvert Jarowski ce que j'écoutais du Vivaldi. Hein. Donc voilà, et effectivement, c'est quelque chose qui me nourrit comme l'écoute de musique actuelle ou l'écoute de la musique contemporaine.
Littérature, technique de composition, nostalgie revendiquée, nous voici maintenant dans l'atelier du compositeur Marc-André Dalbavy.
Je compose toujours dans le même lieu, ce qui me pose des problèmes, parce que je voyage beaucoup et donc j'arrive pas du tout à composer comme Schubert sur la table d'une brasserie. Avec plein de monde, il me faut vraiment un calme absolu. Et j'ai un atelier là où je vis, que j'ai construit pour ça. Et où il y a un piano, effectivement, mais surtout il y a une très grande table, très longue, qui me permet de lire la musique dans le temps, à la vitesse du temps. Donc j'écris presque debout, c'est une table assez haute, et j'écris en fonction du temps. Donc voilà, et c'est évidemment dans un endroit où il y a une bibliothèque musicale, donc il y a constamment ce lien avec les partitions que je lis, que je joue au piano, que enfin, je suis dans un univers totalement environné de musique, quoi, complètement immergé dedans, et en même temps totalement silencieux, parce que quand je compose, il ne faut aucun bruit.
Ainsi se termine ce portrait de Marc-André d'Albavy, proposé par Rodolphe Bruno Boulmier et réalisé par Béatrice Trichet, avec aujourd'hui à la technique Florent Hanoun. Vous retrouverez les références des extraits musicaux diffusés sur le site internet de l'émission et la semaine prochaine, Andrea Cohen déclinera le premier volet du portrait de Georges Apergis. Il est 23h30 et vous retrouvez maintenant Anne Montaron pour le magazine à l'improviste.